Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Laura qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Laura Colomba et je travaille pour la Fresh Tech in the Alps. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Laure Ogeli. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire le métier que tu exerces?
Oui, alors aujourd'hui, je suis responsable communication et marque chez InEmotion.
Très bien, merci beaucoup. Et avant toute chose, pour briser la glace entre nous, nous avons demandé à chaque intervenant de choisir un objet et de nous dire ce qu'il représente pour eux. Est-ce que tu as choisi ton objet et peux-tu nous dire ce qu'il signifie pour toi?
Alors oui, j'ai choisi mon objet. J'ai choisi un Polaroid. Un Polaroid parce que j'aime beaucoup l'image et la capture de l'instantané, avec aussi le besoin d'avoir du papier, du concret, tout de suite, avec juste profiter du moment présent, et le côté un peu rétro, un peu vintage, que j'apprécie particulièrement. Et je trouve que ces images-là, ces instants un peu volés, permettent de vagabonder, d'un peu se projeter, et c'est un outil créatif que je trouve assez sympa. Et puis si une prise est ratée, c'est pas très grave, on en refait une autre. Et ça permet de capturer des instants et de garder un petit souvenir, parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai des milliers de photos dans mon téléphone et je les regarde pas spécialement, alors que quand j'ai mon Polaroid qui me sert de marque-page, je me reprojette dans le moment, et c'est assez sympa.
Très juste et très poétique. Et du coup, un objet plutôt low-tech dans un environnement aujourd'hui très connecté.
C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il y a aussi un équilibre entre les deux à trouver, entre le high-tech et le low-tech, et que chaque objet doit avoir sa place.
Très bien. Merci beaucoup pour cette petite description et partage aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune?
Oh là oui.
Dis-nous tout, ça a l'air croustillant.
Oh là oui. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Et j'avoue que tout au long de ma carrière, je me suis toujours dit, je suis au bon endroit, je suis à la bonne place, j'adore ce que je fais, c'est trop chouette, je découvre plein de choses. Et j'ai grandi à la campagne, donc entourée d'animaux. Et il y a quelques temps, la chienne de mes parents a mis bas, et en fait, j'ai assisté à la mise bas. Le premier chiot m'est né dans les mains. Et je me souviens m'être dit, j'ai jamais eu aucun regret. Et là, c'est revenu. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même très, très chouette. Voilà. Et je monte beaucoup à cheval aussi. Donc, il y a ce rapport à l'animal, ce rapport à la médecine, au fait de soigner, quelque chose peut-être que j'idéalise complètement, parce que je pense que les vétos aujourd'hui nous diraient c'est pas tout à fait ça. mais ouais, c'est marrant, ce petit métier que je garde en tête quand même.
Parce que du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans le métier que tu exerces actuellement, tu retrouves un petit peu des choses, des liens avec le métier de vétérinaire ou pas?
Oula, alors là, on va tomber dans la psychologie.
C'est improbable.
C'est improbable. Non, alors... C'est InEmotion, nous on développe des systèmes de protection airbag pour les motards, les cavaliers et les skieurs. Il se trouve que je suis cavalière, il se trouve que je monte beaucoup et que j'utilise le produit au quotidien aux écuries, donc il y a ce rapport à l'animal. Et puis, non, le rapport veto directement lié à mon métier, non, je pense pas soigner des gens, même si la vocation d'InEmotion reste de sauver des vies. Donc on retrouve un peu par cet aspect-là,
cette
peut-être.
Cette notion de soins, de protection.
Mais j'aurais pas... Je pense que ça s'arrête là.
En tout cas, c'est pas forcément pour ça que tu t'es orientée vers InEmotion et puis vers les métiers du coup de la communication.
Non, non, pas du tout.
Et donc raconte-nous un peu comment tu t'es orientée vers ces métiers de la communication et plus particulièrement vers les métiers du digital.
Ah oui, alors ça c'est... Alors, j'avais un parcours, je ne sais pas où est-ce que je fais commencer l'histoire, si je remonte aux études, mais j'ai un parcours relativement classique, j'ai un bac S, spé mat, 18 ans, je ne sais pas trop ce que je veux faire, veto, j'avais ça en tête, c'est compliqué parce que à l'époque, il fallait partir en Belgique, c'était bouché, enfin... et puis j'aimais bien l'éco, l'histoire géo, j'aimais bien un peu tout ça. Et en bonne indécise, j'ai été admise en classe prépa. Ce qui je trouvais très intéressant, parce que ça me laissait 2 ans pour bien approfondir où je voulais aller. Donc je me suis retrouvée en prépa et j'ai intégré une école de commerce. Et en école de commerce, je me suis dit, je veux surtout pas bosser dans le marketing. Donc j'ai fait tout un parcours en logistique et achat. Chose assez improbable. Et pour autant, au bout de mes 2 ans d'études, on avait une année de césure complète. Et j'avais fait passer des entretiens en achat. Je ne sais pas pourquoi, j'avais en tête que acheteur, c'était que dans le milieu de la mode. Enfin, moi, je me faisais cette idée-là. Alors, c'est même très faux. Mais... Et donc, j'étais partie bille en tête. Et puis, j'avais passé un entretien chez IBM.
Pas du tout dans la mode.
Pas du tout dans la mode. Mais il y avait un côté marketing opérationnel, gestion de fournisseurs. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et ça s'est super bien passé tout de suite, les entretiens sont bien passés. Et donc, j'ai passé 1 an chez IBM avec une équipe. J'en garde un super souvenir actuellement encore. Et je me suis retrouvée dans le milieu du marketing opérationnel et de l'événementiel en étant la stagiaire Roland-Garros, donc le job de rêve quand on sort d'école. Et je me suis rendu compte que l'événementiel, ça me plaisait beaucoup. Que c'était super enrichissant, qu'il fallait avoir une gestion de projet irréprochable, être assez rigoureux, et finalement ça m'allait bien. Donc en quittant IBM, je suis partie faire mon année à l'étranger pour finir mon master aux États-Unis. Et là, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit je vais suivre des cours en marketing et en communication. Et quand je suis revenue, j'ai continué mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Rothschild, les vins et spiritueux. Donc, autre ambiance que IBM, enfin vraiment rien à voir, mais beaucoup de relations presse, beaucoup d'événementiel avec le Festival de Cannes. Donc, ça fait un peu rêver aussi. et là, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment là, enfin, c'est vraiment l'événementiel que je veux creuser. Et donc, j'étais à Paris, stage de fin d'études, pas vraiment d'embauche à cette époque-là, on était en 2010-2011, donc pas vraiment d'embauche. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à organiser des événements. Et puis, j'ai eu mon premier vrai job dans une agence de com qui s'appelait Pourquoi pas moi. Et en fait, cette agence était dédiée aux startups. On était en 2012, enfin 2011-2012. C'était assez précurseur, fondé par Priscilla Leroy. Et elle avait eu ce feeling ou cette intuition. Elle avait développé vraiment des outils de communication pour les startups, pour les aider. Donc soit l'agence prenait tout en charge, soit on les aidait. Et donc elle avait monté des formations. Et ça a été, j'ai passé 2 ans dans cette agence, ça a été super formateur. J'ai énormément appris et puis c'est compliqué parce que c'est un premier job, donc on n'a pas tout à fait tous les codes et avec le recul je me dis que c'était une super expérience vraiment, et ça m'a permis de voir un peu tous les métiers de la communication. Priscilla, elle était beaucoup plus sur les relations presse, on avait un graphiste en interne, et puis on a commencé à travailler avec beaucoup de startups et puis on a monté nos propres événements et puis voilà, ça a grossi, c'était un super moment. Et puis en fait, je crois que j'ai mis là le doigt dans l'engrenage et puis j'ai jamais quitté cet univers startup parce qu'après je suis passée par un groupe, un média qui s'appelait à l'époque The Rude Baguette, monté par un Américain de la Silicon Valley, par Liam Bogart, donc qui avait monté ce blog qui était une référence vraiment dans le milieu startup parce qu'il parlait de la scène startup tech mais en anglais et française en anglais.
Donc du coup, il analysait l'émergence de l'écosystème startup en France.
Mais il le faisait en anglais.
D'accord. Et, donc, ça a... Et à destination du coup de quelle cible? Plutôt une cible française ou une cible américaine?
Internationale.
Internationale.
Et okay. Donc je me suis retrouvée à organiser. Les médias en France, c'est un peu compliqué. Le business model est compliqué. Et ce qui fait que pour faire vivre le blog, il y avait aussi une partie événementielle. Et donc je me suis retrouvée à organiser un salon de recrutement pour les startups. Et les jeunes qui voulaient travailler en start-up.
Précurseur. Ouais. Enfin, ça répondait du coup à une forte demande quand on sait qu'aujourd'hui, encore en 2021, il est très compliqué. C'est une des difficultés principales pour le développement des start-up que de recruter, que de trouver les talents qui conviennent du coup à leur recherche, à leurs besoins. Du coup, d'organiser un premier job dating entre start-up et talent.
C'était le job fair, ça s'appelait. Et oui, c'était, on l'a fait. Moi, j'ai organisé, je crois, 3 éditions et c'était assez fou de voir des entreprises comme on avait BlaBlaCar, Uber, qui étaient déjà présents. Donc, c'était vraiment la scène. Start-up émergente. Donc, c'était plutôt. Vraiment intéressant à vivre. Il y avait un autre événement qui s'appelait le Founders Event, où on sélectionnait des startups qui venaient pitcher sur scène et on réunissait des journalistes, des investisseurs. Et donc, c'était assez incroyable aussi de voir, d'avoir les projets qui arrivent, de les faire pitcher, de sélectionner, de les voir sur scène. C'est des très bons moments. Et l'ultime conférence que j'ai eu à organiser, c'était The Connected Conference, qui était dédiée aux objets connectés. Et avoir sur scène, à l'époque, donc c'était 2014, Axel Lemaire, qui était la déléguée ministérielle numérique. Je crois que c'était la première,
et
d'ailleurs.
Et qui a participé au lancement de la French Tech en 2013.
C'est ça. L'avoir sur scène, avoir Apple, Samsung, voilà, qui parle des objets connectés avec des startups, c'était vraiment, vraiment sympa. Et donc, c'était un milieu qui me plaisait, je m'éclatais. Puis l'événementiel était toujours dans cette ligne de mire, donc c'était parfait. Et donc, j'ai passé pareil 2 ans et demi à peu près chez Rue de Baguette. Et à la fin de cette expédition parisienne, j'ai vécu 7 ans, j'ai rejoint The Family.
Oui. Tu peux peut-être nous présenter rapidement ce qu'est The Family.
The Family, oui, c'est un accélérateur de start-up dont le but était vraiment dont le but est vraiment de fournir aux start-up tout un bagage pédagogique pour être concret et se développer. C'était vraiment, c'était une expérience super parce que le but, moi, mon rôle chez The Family, c'était de prendre en charge toute la partie événementielle et conférences. Donc, on organisait entre 4 et 7 conférences par semaine, des choses très, très concrètes sur le design, sur comment est-ce qu'on construit une application, sur comment est-ce qu'on lève des fonds, faire venir des investisseurs qui expliquent aux startups qui sont présentes comment est-ce qu'est-ce qu'eux attendent, en fait, des startups qui pitchent. Et c'était des événements qui étaient gratuits, filmés, mis sur YouTube. Donc, c'était ultra enrichissant de recevoir aussi des personnes de la Silicon Valley. Sam Altman, qui est le fondateur du Y Combinator, qui vient parler. Et voilà, c'était le lieu de référence avec un ADN très fort, un ADN... vraiment une identité de marque remarquable. Et je pense que c'est chez The Family que j'ai vraiment saisi toute l'importance et l'essence de la culture d'entreprise et du branding. De la marque, de l'incarnation de la marque, de l'importance d'avoir un manifeste fort et solide, que la marque n'appartient pas seulement au marketing et à la com, mais que ça doit être incarné par toute l'entreprise. Et ça a été une expérience vraiment enrichissante également. Et en fait, après, c'était d'un point de vue, ça c'était très pro, d'un point de vue perso, ça faisait 7 ans que je vivais à Paris. Que je me perdais, que je travaillais énormément, mais parce que en fait, j'étais pas à ma place. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas, plus d'un point de vue perso. Et donc j'ai pris la décision de partir de Paris. Et en fait, c'est comme ça que j'ai croisé le chemin d'Inemotion au début.
Et tu es passée de l'autre côté de la barrière, du coup.
Et je suis passée de l'autre côté de la barrière. Tout à fait.
Bah, raconte-nous tout.
Alors, oula, je parle beaucoup, c'est vrai. Inemotion, je me souviens, ça s'est fait relativement rapidement. Et quand je suis arrivée chez Inemotion, déjà, j'avais eu j'ai vu l'annonce, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « mais c'est génial ». À l'époque, le produit qui existait était uniquement le produit pour skieurs. Et tant cavalière, je m'étais dit, mais c'est super, parce qu'en fait, pour le ski, c'est sympa, mais il y a plein d'applications. Et puis, j'ai mon père et mon frère qui sont motards. Et quand j'ai passé l'entretien avec Rémi et Pef, donc 2 des 3 cofondateurs, ils m'ont vite parlé de la moto. Et évidemment, moi, je connais ce milieu parce que y a un papa motard, un frère motard, je connaissais un peu les modèles, Et donc, le courant est vraiment vite passé. Pour moi, ça a été vraiment un entretien, mais plaisir. Et où j'ai aussi abordé l'équitation en disant que c'était un produit qui était génial pour l'équitation aussi. Et, bon. Et j'ai rejoint Annecy, donc c'était un peu un coup de poker parce que j'avais pas de famille,
pas d'attache particulière
à Annecy. Et je me suis dit, bah, c'est l'aventure en fait, donc on y va. Donc on est arrivé, j'étais je crois le CDI numéro 4 ou 5 chez InEmotion. Donc,
et peut-être Anne-Laure, est-ce que tu peux nous dire ce que fait InEmotion ?
Oui, tout à fait. Alors InEmotion, c'est une entreprise qui développe des systèmes de protection airbag pour les motards, les cavaliers, les skieurs. Toute la technologie réside dans un boîtier qui est intégré dans une dorsale, qui va mesurer les mouvements de l'utilisateur en temps réel et qui va être capable de déceler s'il y a une perte d'équilibre irrécupérable ou une chute pour gonfler l'airbag et venir absorber l'énergie du choc. Donc en plus, c'est un produit avec une belle mission parce que la vocation est vraiment de sauver des vies, mais au moins de faire en sorte que les jours après un accident soient pas pires que les jours avant cet accident, parce que c'est toujours marquant, et en particulier chez les motards. Donc oui, déjà, c'était une belle... InEmotion, c'était un beau produit avec une belle mission. Je pense que c'est important aussi de se dire à un moment, on est en plein dedans, c'est chouette d'avoir un métier, mais c'est encore mieux d'avoir un métier qui a du sens.
Exactement.
Et là, on coche un peu les cases. donc oui, quand j'ai rejoint, ça a été fondé par des ingénieurs. Donc tout ce qu'on fait, on le fait en interne. Aujourd'hui, on est une soixantaine chez InEmotion. Avec beaucoup d'ingénieurs, tant sur l'algorithmique, sur la data, sur la conception de produits. On a même un biomécanicien, un docteur en biomécanique, qui analyse comment est-ce que le corps se casse pour pouvoir mieux le protéger. Donc c'est vraiment une structure qui est très complète. Et donc je pense que j'étais une des premières non-ingénieurs à rejoindre l'entreprise.
Mais c'est important.
Et c'est important aussi, oui. Et donc, à la base, quand j'ai rejoint InEmotion, c'était pour relations presse et événementiel. Je me souviens de l'affiche de poste, c'était vraiment ces deux. Je me suis dit...
Tes sujets de prédilection,
c'est
parfait.
C'est parfait, c'est pour moi. Et au fur et à mesure, là, ça fait 5 ans maintenant que j'y suis. Et aujourd'hui, je m'occupe un peu plus que de la presse et de l'événementiel, qui reste des sujets que je gère, mais il y a tout le côté, ce que j'appelle moi plutôt relations publiques, donc gestion des journalistes, mais plus côté ambassadeur, donc gestion des ambassadeurs. Et puis en termes de communication pure, aujourd'hui, on existe. La manière dont InEmotion est construite, c'est qu'on développe une technologie qu'on vient intégrer dans les vêtements de marques partenaires. Et donc, quand on est une petite start-up qui se retrouve projetée en MotoGP avec nos deux concurrents principaux qui sont des mastodontes dans le monde de la moto, qui existent depuis une cinquantaine d'années, qui ont une image de marque à toute épreuve, exister, c'est compliqué. Et donc, il a fallu un peu être malin, lutter et se faire une place. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que mon travail chez InEmotion a évolué en permanence, parce que de se faire une place, on en arrive cette année à faire des campagnes de communication, mais que nous portons. Et c'est plus les marques partenaires qui les portent. Donc il y a une belle évolution.
Oui, l'appropriation du coup de la marque en propre InEmotion.
C'est ça. Et puis aussi le challenge en permanence de faire vivre cette marque et de la faire évoluer avec les embauches successives, les personnes qui arrivent, qui l'interprètent, où chacun a son interprétation. Et puis l'importance de garder une cohérence de marque. Et puis une marque qui n'est pas quelque chose de figé, qui est quelque chose qui grandit, qui grossit, qui s'exprime, qui peut changer d'avis ou... C'est humain, enfin comme un humain en fait. Donc, être le garant aussi de cette marque qui est un petit challenge au quotidien, mais qui est ultra important.
Et d'ailleurs, récemment, vous avez lancé une grande campagne de communication, notamment à Paris, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc nos auditeurs et auditrices parisiens et parisiennes peuvent voir... dans le métro, où ça a des affiches d'InEmotion, comment ça se matérialise, cette campagne de communication sur laquelle, du coup, tu as travaillé?
Ah oui. Alors, cette campagne, elle a été... ça a été un... un très beau challenge. Alors, c'est, malheureusement, ce n'est plus, on n'est plus affiché. C'est des temps très courts. On a plusieurs marques partenaires et en avril, on a officialisé le partenariat avec une nouvelle marque italienne qui parle énormément aux scooteristes parce qu'à la base, eux, ils développaient des petits tabliers et des petits manchons pour l'hiver, pour ne pas avoir froid. Et donc, on s'est dit, avec l'arrivée de cette marque et d'un nouveau produit qui est moins typé moto, ça nous donne l'opportunité de parler à des gens qui ne connaissent pas du tout cet univers moto. Aujourd'hui, les motards ont une identité assez forte, des magasins de prédilection. Et la personne qui conduit en scooter en ville, qui n'a pas son permis, elle n'aura peut-être pas l'idée de se dire « je vais aller chez Daffy ou chez un magasin spécialisé pour m'acheter des gants ». Non, parce que je conduis un petit scooter, donc je prends des petits gants avec ma petite veste en jean. Et donc la sécurité, on n'est pas tous au même niveau. Ou alors là où les motards qui ont leur permis vont dire « non, moi, il faut que je m'équipe, donc l'airbag, et je ne me pose pas de questions, ou j'y pense et je connais ». Là, on partait vraiment de zéro. Et donc on s'est dit « ok, bah, on a l'opportunité avec le lancement de cette nouvelle marque, avec un produit qui est moins typé moto, de parler à une population qui est beaucoup plus large, et donc de parler aux scooteristes qui n'ont pas leur permis et qui sont aussi vulnérables que les autres ». Maintenant, la question, c'est comment on fait ? Et comment est-ce qu'on le fait à la façon InMotion ? Donc, on a un peu réfléchi au concept. Et donc, on est arrivé avec un concept où on a enroulé tous nos collègues. Ah oui, parce que tous les shootings photos que j'organise, c'est des personnes de chez InMotion qui sont sur les photos.
Très corporate.
Très corporate et c'est assez sympa aussi. Parce que c'est un moment sympa à vivre, les shootings. Mais là, un peu moins, ils m'en ont un peu voulu parce que je les ai enroulés de papier bulle.
Pas très agréable.
Agréable. Mis sur un fond ultra coloré avec le petit mot « sinon, vous pouvez porter un airbag moto ».
Pas mal.
Voilà. Et donc, cette campagne s'est déployée. C'était la première fois, oui, qu'on faisait de l'affichage avec JC Deco. Oui. Y a une petite entreprise annécienne aussi qui nous a bien aidé. C'est Comeup qui nous a aidé à mettre tout ça en place parce que moi, je n'avais pas les codes. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est important aussi de s'entourer de gens qui savent parce qu'on perd moins de temps. Et donc, on a fait de l'affichage. Puis après, on a décliné. On a fait un événement presse pour qu'ils puissent tester un petit peu le produit. On a créé des landing pages. On a utilisé la publicité sur les réseaux sociaux pour vraiment créer un instant autour de ce lancement. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une belle campagne en termes de créa. On s'est bien amusé.
Et du coup, félicitations déjà. Et pour mener à bien ce travail-là, avec qui tu collabores au sein de l'entreprise ? Quels sont les différents pôles métiers, je dirais ?
Alors, sur celle-là, il y a une autre campagne dont je parlerai peut-être qui est peut-être plus révélatrice de la transversalité. Sur cette campagne-là, j'ai beaucoup travaillé avec Maria chez nous, qui est tout en charge du gros hacking, avec Dorian qui s'occupe des réseaux sociaux, avec Lohan qui est notre graphiste en interne, avec Pef bien sûr qui est mon responsable et qui en plus est mon sparring partner sur ces sujets. Donc c'était vraiment un projet. Et puis oui, avec les marques partenaires qui sont impliqués, parce que quand on fait une campagne, on les implique aussi. Quentin, sur les shops, donc on a toute la partie sales marketing, on a tous été impliqués et tous coordonnés. Mais en revanche, on a monté une autre campagne, ta question me fait penser à ça. On a monté, alors ça a été plus confidentiel, mais en mai, on a voulu un peu montrer l'étendue des compétences d'InMotion en interne. Et donc dire, en fait, on a des gens qui s'occupent de la data, on a des gens qui s'occupent de l'algorithme, on a des gens qui gèrent la traumatologie, des gens qui conçoivent le produit. Et en fait, on leur donne peu la parole, ou eux la prennent peu. Enfin, et c'est important de montrer un peu ce savoir-faire, parce que ça rassure, et ça montre un peu l'étendue de la complexité pour créer notre produit. Donc, on a organisé toute une journée, qu'on a appelée les Tech Days, où on a invité des journalistes, des leaders d'opinion, des assureurs, toutes les personnes de l'écosystème qui ont un lien avec la moto et la protection, pour leur dire, ben voilà, en fait, on va juste vous expliquer comment est-ce qu'on travaille chez nous, qu'est-ce qu'on fait. Et là, tout le monde chez InMotion a été impliqué. Tout le monde, parce que, ben, il a fallu aller voir les personnes qui s'occupent des datas, leur dire, en fait, il faudrait que tu m'expliques ce que tu fais. Et après, en fait, il faudrait que maintenant, tu me l'expliques de manière à ce que je puisse le retranscrire. Parce que, et la grande phrase que je sors aux ingénieurs à chaque fois que je leur demande quelque chose, c'est « Mais parle-moi comme si j'avais 5 ans. » Parce que c'est vraiment important d'avoir cette combinaison entre à la fois la communication qui doit rendre intelligible un produit qui est ultra compliqué et sans nuire à tout le travail qui est fait derrière. Donc là, ça a été assez chouette de pouvoir un peu les mettre en avant et mettre toutes ces personnes qui font les algorithmes, qui juste expliquer ce qu'est un algorithme et de pouvoir leur donner la parole et de mettre en lumière un peu tout ce qu'ils font parce qu'en fait, c'est in emotion par ceux qui le font.
Oui. Voilà. Très beau message. Et puis c'est vrai que du coup, le fait de faire de la communication dans une startup qui est très tech, ça rajoute une complexité ou en tout cas une spécificité particulière par rapport à des entreprises qui développent des produits plus accessibles au plus grand nombre.
Oui, et puis il y a une question de timing. Il y a une chose que j'ai beaucoup appris, que j'ai appris chez InEmotion, c'est si ce n'est pas le bon moment, ça ne sortira pas. Et je parle en communication, mais la campagne dont on parlait à Paris, on en rêve depuis un moment, et puis ça s'est concrétisé, mais au bon moment. Et la subtilité, je parle de timing, parce que sur les entreprises innovantes, il y a toujours des questions de brevets, de confidentialité. Donc il y a des choses sur lesquelles on aimerait communiquer, on aimerait dire, sauf que c'est pas tout à fait le bon moment, parce que ça peut mettre en péril le produit. Donc il faut faire très attention à comment on communique, à ce qu'on dit. Et puis surtout, il faut aussi ne pas oublier que quand on communique sur des chiffres, sur des valeurs, c'est repris et puis ça ne nous appartient plus. Une fois que l'information est donnée, elle est donnée. Et on ne peut pas faire machine arrière, c'est un peu compliqué. Donc il faut être vraiment solide et vraiment pas berner la personne qu'on a en face. Parce qu'on a droit qu'à une première bonne impression, finalement. Et en plus, nous, on parle de sécurité. Donc, si on commence à avancer des chiffres pour avancer des chiffres, c'est jamais bon. Donc, il y a cette rigueur aussi intellectuelle à avoir. Et c'est pas parce qu'on fait de la communication qu'on part dans tous les sens. Non, il faut être très structuré et savoir ce qu'on dit. Et si on parle d'une idée, on a une idée, on la donne, qu'on soit encore OK avec cette idée dans quelques mois, c'est super important.
Est-ce que du coup, tu pourrais un peu nous raconter une journée type de travail ? Parce que donc là, tu as beaucoup parlé de ton environnement, des actions que tu avais pu mener dans le cadre de ton travail. Mais donc j'imagine évidemment que quand tu travailles dans une start-up, il n'y a pas forcément de journée type, mais peut-être un peu des tâches récurrentes ou qui sont vraiment prioritaires quand on fait de la communication dans une entreprise, quand on est responsable de la communication dans une entreprise.
Ah. Alors oui, effectivement, non, il n'y a pas de journée type. Je dirais que les tâches qui reviennent, alors le matin, c'est toujours le même rituel. Hein. J'ouvre mon ordinateur, j'ouvre mes mails et mon Slack.
Le fameux Slack. Communautaire professionnel.
Et puis en fonction de mes emails, je vois ce que j'ai à faire dans la journée. Il y a cette règle-là et l'autre règle que je m'applique, c'est je ne pars jamais avec des emails non lus, non traités dans ma boîte mail. Voilà, c'est une rigueur que je m'impose. Donc en fait, quand j'ouvre mon ordinateur, soit il y a des mails qui sont tombés, notamment de la personne qui est chez nous aux US, qui est chez InEmotion, mais basée aux US, soit des idées de dernière minute, parce que je suis partie un peu tôt, d'autres mails qui sont arrivés, donc ça me fait un peu ma to-do de la journée. Et je m'applique à garder un œil sur mes mails. Alors, c'est peut-être pas bien, sauf quand j'ai vraiment des choses très stratégiques à faire. Je coupe tout, plus de Slack, plus de mails. Je fais même du télétravail pour pas être au bureau, pas être sollicité, pour me mettre dans ma bulle. Ça, c'est sur les phases stratégiques. Et ensuite, là où j'accorde une grande importance, où je suis assez vigilante, c'est qu'en tant que responsable com et à gérer les journalistes et nos ambassadeurs, je suis très attentive à leur coup de fil, à leur message, pour, parce que ça c'est de l'humain en fait, c'est des relations humaines, mais parce que je les apprécie énormément et que s'ils ont, ils me demandent quelque chose, c'est qu'ils en ont besoin, donc je fais en sorte de leur répondre dans la journée. Mais plutôt qu'une journée type, je me pense qu'il y a une semaine type avec la différence entre, on est en flex office chez InEmotion, donc il y a les temps au bureau et les temps à la maison. Et quand je suis chez moi en télétravail, je coupe tout, je me mets dans des gros sujets de fond, des sujets stratégiques, des présentations. Et quand je suis au bureau, bah, je suis beaucoup plus disponible pour prendre un café, pour toutes les réunions que j'ai à faire en présentiel. Et je suis plutôt une adepte, oui, des post-café, parce que c'est là où s'échangent beaucoup de choses informelles. Et c'est très important. Je trouve que c'est des moments d'échange très importants. Mais voilà, c'est plutôt deux temps à distinguer.
Qui peuvent, toi, du coup, nourrir un petit peu ta vision, ce que tu peux dégager, faire ressortir de ces échanges. Et puis, donc, j'imagine qu'il y a une grande part de créativité aussi dans ton job. Et du coup, elle doit certainement émerger de ces échanges. Et puis ensuite, être encore plus stimulée quand tu te retrouves dans un environnement assez favorable, du coup.
Oui, alors, pour la créativité, oui, tout à fait, c'est... C'est beaucoup d'échanges et puis c'est beaucoup de veille, mine de rien. Et par veille, c'est pas que de la veille dans la tech, c'est voir aussi ce qui se passe, les dernières expositions. C'est ce que je dis à la graphiste avec qui je travaille. Je lui dis, mais si t'as besoin d'aller voir une exposition d'un peintre contemporain, mais vas-y, en fait. Parce que c'est toutes ces choses qui nous nourrissent au quotidien. Et c'est important de regarder un peu ailleurs ce qui se fait dans le milieu, je sais pas, de l'alimentaire, des vêtements. Alors les vêtements, on est un peu proche, mais dans des milieux complètement différents. Et pouvoir échanger après, effectivement, de lancer des idées. Dire, oh, tiens, j'ai vu ça, c'est sympa, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est vrai que c'est important de se nourrir de tous ces moments d'échange et même de mettre, de poser la question à des personnes dont le marketing et la com ne sont pas le métier. Parce que c'est vrai, j'ai le sentiment et la conviction que la marque appartient à tout le monde. Et donc avoir la réponse de quelqu'un sur bah, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle tendance ou au final, c'est peut-être un ingénieur qui bosse pas dans la com, mais au final, c'est sûrement aussi un profil de nos clients. Donc c'est hyper important et hyper riche d'avoir la perception d'un peu tout le monde et de pas rester entre soi.
Très bien. Et comment tu définirais ton métier aujourd'hui et les compétences clés pour l'exercer?
Alors, mon métier, je vais prendre par la partie par les compétences clés, parce que ça me paraît plus facile, mais je pense que c'est beaucoup de savoir-être. C'est important, il y a beaucoup de relationnel, notamment avec la presse, avec les ambassadeurs. Je pense qu'il faut être curieux aussi, c'est important. Savoir un peu réfléchir en dehors du cadre. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment le sentiment que les choses devaient être faites d'une certaine façon et qu'on ne pouvait pas sortir de ce cadre-là et en vieillissant.
Non, en prenant de la maturité.
Exactement. Au gré des expériences, on se dit, mais non, en fait, ça vaut le coup de regarder un peu, de sortir un peu du cadre. Et si on ose un peu, qu'est-ce qui se passe? Ça passe, ok, bah on va oser un peu plus et encore un peu plus. Et c'est hyper important, je trouve, d'être curieux et de ne pas rester dans des carcans et pas se dire, bon, ça doit être comme ça, on y va. Et je sais que j'ai été comme ça, donc ce qui est chouette, c'est de voir qu'on peut évoluer. Et donc, je dirais que aussi, travailler en start-up, ça demande une certaine faculté d'adaptation. Parce que on passe de 10 personnes à 60, on ne travaille pas de la même façon. Et que ce soit en communication ou dans un autre métier, hein, je pense que c'est aussi important. C'est aussi important de se dire que les choses peuvent changer, il peut y avoir des pivots qui peuvent être pris et que on est embauché pour une certaine tâche, mais il faut être un peu flexible. Se dire, ok, je vais faire un peu plus, ou tiens, je vais aller expérimenter ça que je ne connais pas forcément, mais ça peut être enrichissant. Donc vraiment, je pense que si on s'attend à avoir quelque chose de très stable, très fixe, avec une journée bien type et bien cadrée, je ne sais pas si c'est très possible en start-up. Je sais pas. C'est une question ouverte. Ça l'est sûrement si les fondateurs ont cet état d'esprit-là, et encore. Mais ouais, je pense qu'il faut être un peu polyvalent, un peu curieux. Et puis, il faut aussi oser se dire « Non, là, c'est pas pour moi. » C'est super important parce que... pareil, c'est la maturité qui me fait dire ça, mais pendant, quand on arrive sur le marché du travail, on se dit... moi, j'avais cette crainte d'être au chômage. En plus, on est dans le milieu de la com, du marketing, où tout le monde nous répète en permanence qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et au final, donc, j'avais qu'une angoisse, c'était de pas trouver de job, sans me prendre la peine de me dire « Attends, c'est un contrat, donc c'est pas un one-man show, c'est un pas de deux. » Donc si les conditions de l'entreprise ne te conviennent pas, tu as le droit de dire que ça ne convient pas. C'est pas parce que toi, ça ne te convient pas, que ça ne conviendra pas à d'autres personnes. Mais toi, tu as le droit de dire non, ça ne me va pas et de chercher ailleurs. Donc c'est hyper important d'avoir ce feeling-là. Et en start-up, je pense, mais c'est pareil dans tous les métiers, quand on arrive dans une équipe, de se sentir et de faire confiance à son intuition. Je pense que l'intuition, c'est quelque chose qui est pas très mis en valeur. Pas bien mis en valeur. Et pourtant, quand on dit qu'on agit avec ses tripes et qu'on défend un projet comme ça, c'est
ce qui donne le meilleur.
C'est ce qui peut donner le meilleur. Et alors, il faut faire attention à ne pas être borné et savoir aussi prendre du recul. Mais avoir juste un ressenti, se dire ah, là, j'irai bien creuser là. Je ne sais pas pourquoi encore, mais j'irai bien. Et c'est ça qui est super et que j'aime beaucoup faire avec PEF, avec mon responsable. Quand je lui dis, j'ai le sentiment que... Il me dit, ok, bah vas-y, creuse. Et après, on en rediscute. Et c'est aussi ça chouette, le fait de se dire, ok, je peux me tromper, d'avoir un cadre un peu sécurisant, dire, ok, je peux me tromper. Et j'admettrai que je me suis trompée, mais c'est pas la fin du monde. On passera à autre chose.
Et j'imagine que tu n'es pas seule pour mener à bien l'ensemble de ces projets. Et donc, ça nécessite d'avoir aussi une capacité de management de tes équipes.
Oui, alors effectivement, je ne suis pas toute seule. Et heureusement, je ne pourrais pas faire ça toute seule. J'ai 3 personnes aujourd'hui avec moi, dont Loan, notre graphiste, Adèle et Charlotte, qui sont Adèle en alternance et Charlotte en stage. Donc, c'est leurs premières expériences aussi en start-up. Et c'est vrai qu'avec elles, on a mis en place plusieurs outils pour justement les accompagner et qu'elles puissent de plus en plus gagner en autonomie et surtout en confiance en elles. Donc on a des outils alors, très basiques, hein, Asana pour la gestion des tâches au quotidien. Et puis j'organise des points toutes les semaines, tous les lundis, on se fait une réunion... Une réunion globale avec toute l'équipe pour aborder, je leur demande en 3 minutes de me résumer qu'est-ce qu'elles ont fait la semaine passée, qu'est-ce qu'elles vont faire la semaine qui arrive et où est-ce qu'elles ont besoin d'aide. Et en fonction de là où elles ont besoin d'aide, on fixe des points de rendez-vous dans la semaine, ensemble, ou avec d'autres personnes, pour qu'elles puissent avancer. Et c'est vrai que c'est un challenge et à la fois c'est vraiment génial de les voir arriver, je les ai vues arriver où elles avaient une petite expérience et pouvoir au fil du temps leur confier de plus en plus de responsabilités, leur donner de plus en plus de tâches et puis surtout les mettre dans un cadre qui fait que quand elles me rendent un projet, ça va au-delà de mes espérances. Et ça, c'est juste génial de juste leur donner le cadre et puis de me dire « Ah ouais, bah, j'aurais pas fait mieux ». Donc ça, c'est vraiment... moi, c'est ce qui m'anime aussi au quotidien. Et grâce à elle, on arrive à... Peut-être pas à déplacer des montagnes, mais pas loin.
Peut-être un petit mot pour conclure et notamment pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de rejoindre une start-up. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Quel message tu souhaiterais faire passer?
Oser. Non, il faut oser, si vous ressentez que c'est la bonne chose pour vous, oser et puis n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de prendre des risques. La chance sourit aux audacieux. et surtout, faites attention à choisir un cadre bienveillant. Voilà, un cadre où vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir grandir. Vous n'allez peut-être pas y passer toute votre vie, c'est peut-être un instant de votre vie, mais quand vous vous retournerez, vous direz « Ah ouais, c'était chouette quand même ». Voilà, c'est la meilleure chose, je pense, qui soit.
Merci beaucoup pour ces très belles paroles pleines de bienveillance. Merci encore Anne-Laure de t'être rendue disponible pour ce podcast et de nous avoir partagé un petit peu ton quotidien.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation.
Je t'en prie.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.